Non, mais on comprend bien que l'auguste présence de Jacques Baudoux et de Jean-Louis Fedjen impressionne et il faut maintenir certaines mesures. Donc, ben, nous allons donc commencer. Nous sommes réunis ici pour parler de la fantaisie grâce à l'encyclopédie de la fantaisie, le magnifique livre que vient de sortir Jacques Baudoux. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient peut-être pas, Jacques Baudoux est un grand spécialiste de tous les domaines les plus mal considérés de la littérature, on peut le dire, hein. Le policier, Sherlock Holmes, il a fait de nombreuses anthologies holmésiennes. C'est un spécialiste de Maigret, de Miss Marple, etc. Grand spécialiste de la science-fiction et aussi de la fantasy. Et donc, nous avons à côté Jean-Louis Fedjen, qui est un auteur bien connu pour ses très beaux livres, comme Le Pas de Merlin, qui a eu un prix, et puis plus récemment, la trilogie des Elfes. Et donc, ben, je vais peut-être. Et donc, on peut le dire quelque part, vous êtes plutôt un écrivain de fantasy traditionnel, entre guillemets, plus basé sur la geste arthurienne et le folklore français. Donc, alors, premier point, et maintenant, donc, directeur, j'allais oublier le principal aussi, directeur des éditions Jean-Louis Fedjen, qui commence à publier un certain nombre de très beaux livres dans les domaines de la féerie et de la fantaisie. Donc, première question, pourquoi avez-vous demandé à Jacques ce livre, cette encyclopédie?
Alors, ben Jacques, je le connais depuis très longtemps, puisqu'on s'est connus autour du Festival de l'Imaginal à Épinal. Et c'est sans doute le plus grand spécialiste de la fantaisie, enfin un des plus grands spécialistes de la fantaisie en France, et en tout cas l'un des plus ouverts à ce qui est autour de la fantaisie, qui est un genre de plus en plus populaire, qui a certainement pris la place qu'occupait autrefois la science-fiction dans les littératures de l'imaginaire, et qui est un domaine, on se rend compte, très mal connu. Moi, j'ai, en éditant le livre de Jacques, appris énormément, parce que c'est vrai qu'il manque énormément de pédagogie autour de la fantaisie. Les gens aiment bien la fantaisie, mais ne savent pas vraiment ce que c'est. D'abord, on sait pas vraiment, on ne connaît pas vraiment la définition. Avant de lire ce livre, de ce qu'est la fantaisie, ce qu'est le fantastique, ce qu'est le folklore, ce qu'est le merveilleux. Et c'est intéressant de s'apercevoir qu'en réalité, c'est un univers littéraire extrêmement ancien. D'ailleurs, d'un point de vue strictement historique, c'est même l'origine de la littérature, puisque les plus grands textes, puisque la littérature européenne démarre avec le roman arthurien. Et les chansons de geste. Or, les romans arthuriens, c'est un univers de fantaisie. Et si on remonte même avant, sur les mythologies sacrées, la Bible, le Coran, ce que vous voulez, ce sont, si on les débarrasse du côté sacré, ce sont des œuvres de fantaisie. Qu'est-ce qu'une œuvre de fantaisie? Qu'est-ce que la fantaisie? Et ça, Jacques en a donné une définition qui est simple. Ce qui est toujours intéressant d'avoir une définition simple. Fantaisie, c'est le passage dans un autre univers. Si la porte s'ouvre là et qu'il y a un vampire qui rentre, on est dans le fantastique. Si on passe à travers cette porte et qu'on est dans un autre monde, c'est de la fantaisie. Ça, c'est une définition qu'elle mérite d'être simple. Et si vous réfléchissez à ce qu'est la Bible ou ce qu'est le Coran, enfin, ou la plupart des textes sacrés à la lumière de cette définition, vous vous rendez compte qu'en fait, ce sont des textes de fantaisie. Le paradis, l'enfer, ce sont des lieux situé ailleurs, on ne sait pas bien où, et dans lequel il y a des créatures non humaines. Un ange, c'est une créature non humaine. Un djinn, dans le Coran, c'est une créature non humaine. Et donc, on se rend compte que la fantaisie, c'est un art, c'est une littérature, donc, extrêmement ancienne, c'est même le fondement de la littérature. Donc, c'est intéressant de s'inscrire dans quelque chose d'aussi riche et d'aussi fondamental.
Merci, vous avez déjà commencé à développer anticiper sur ce que j'allais poser ensuite à Jacques, qui était plutôt justement cette définition, comment la différence entre fantaisie et fantastique. Vous avez déjà pas mal élaboré, mais Jacques, tu veux peut-être rebondir un petit peu, parce que surtout on était resté en fantaisie pour beaucoup d'entre nous, à l'ancienne héroïque fantaisie, à la sword and sorcery, éventuellement à la science fantaisie, qui était très frontière. Donc tu peux peut-être développer un petit peu, parce que moi ce qui m'a frappé en lisant ton livre, c'est la richesse effectivement des domaines que couvre la fantaisie aujourd'hui. C'est plus que Tolkien.
Oui. Oui, ben, d'abord c'est un genre littéraire assez paradoxal, parce qu'effectivement, comme le dit Jean-Louis, les racines de la fantaisie sont des assises très anciennes. Ce sont les mythologies, et il y a un certain nombre de romans qui utilisent les mythologies grecques, les mythologies gréco-romaines, et les mythologies d'autres pays, scandinaves, même des mythologies asiatiques. Et le domaine de la fantaisie, c'est très largement ouvert depuis quelques années à des civilisations autres que notre civilisation occidentale. Ça utilise aussi les personnages des contes de fées. Les contes de fées, c'est d'abord des textes de littérature orale du folklore. Et puis après, on les réécrit au XVIIe siècle, hein, les fameux contes de Perrault, mais pas seulement, on les réécrit en langage lettré. Mais cette origine des contes de fées est aussi quelque chose de très important dans le domaine de la fantaisie. Le paradoxe vient de ce que c'est un genre littéraire ou oblitéré genre littéraire très récemment. Et c'est assez facile de voir à quel moment ça se produit. Ça se produit en 1969, très exactement, le jour où, aux États-Unis, on publie Le Seigneur des Anneaux en paperback. Le livre était déjà paru en hardcover quelques années auparavant, sans provoquer de réaction très particulière. Il est publié d'abord dans une édition pirate, et ensuite, une autre maison d'édition, Ballantine, accepte de publier Le Seigneur des Anneaux en version paperback, autorisée, et Tolkien écrit pour l'occasion une préface où il explique pourquoi il a notamment écrit Le Seigneur des Anneaux. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une espèce de ruée vers ce type littéraire, provoqué par le succès du Seigneur des Anneaux. À l'époque, c'est un livre qui a beaucoup compté dans la contre-culture. Les étudiants américains se promenaient avec des banderoles Gandalf pour président et des choses comme ça. Les ventes ont été absolument considérables. Et beaucoup d'autres auteurs ont décidé d'écrire de la fantaisie, et des éditeurs ont commencé à publier des collections étiqueté fantasy. À partir de là, le genre s'est développé de manière exponentielle, au point même, comme effectivement l'a dit Jean-Louis, de supplanter la science-fiction. Et alors, il y a une différence essentielle entre la science-fiction et la fantasy, c'est que d'un côté, la science-fiction est un genre éminemment rationnel. Quand on passe dans un autre univers, dans un roman de science-fiction, il y a toujours une explication. On a pris une fusée, on est en cosmos. On passe dans un monde parallèle où on utilise une machine à explorer le temps pour aller dans un autre temps. Mais au départ, il y a toujours quelque chose de profondément matériel qui est une machine. La plupart de ces machines étant d'ailleurs des machines strictement littéraires, parce que ni la machine à explorer le temps... les machines permettant, les portails permettant d'aller dans d'autres dimensions existent. Quant aux fusées, la science-fiction s'est trouvée confrontée très tôt à un simple petit problème, c'est qu'il y a une limite, la vitesse de la lumière, et que lorsqu'on envoie une fusée à la vitesse de la lumière, et comme vous le savez, on est très très loin d'avoir des vitesses équivalentes aujourd'hui, il faudrait plusieurs générations de cosmonautes pour atteindre la plus proche étoile Proxima Centauri. Alors, l'exploration du cosmos. Donc, ils ont été obligés d'inventer des machines comme l'hyperspace. Hein. Ils mettent tout simplement, on passe dans l'hyperspace Et puis, on utilise l'hypervitesse et on se retrouve très rapidement à l'autre bout de la galaxie. Sauf que, il n'y a aucune théorie scientifique qui permet de penser que ce soit possible. Même pas la théorie des trous de ver, qui n'est d'ailleurs qu'une théorie. Mais il y a toujours une base rationnelle. Dans le fantastique, il n'y a jamais de base rationnelle. C'est un événement, il se produit un événement qui est un événement irrationnel et inexplicable. Alors on a, pour voir la différence entre le fantastique et la science-fiction, un élément très, très facile, c'est le roman de Matheson, Je suis une légende, où le monde est devenu un monde de vampires, sauf une personne. Et il est devenu vampire parce qu'il y a une mutation qui s'est produite qui oblige les gens à boire du sang. Bon, il y a une explication rationnelle, même si elle est vaguement scientifique. Les mutations, ça existe, on sait ce que c'est. Dans la fantasy, l'élément majeur, c'est plus la science, c'est plus la technique, c'est la magie. Et on passe dans des mondes secondaires dans lesquels des gens... Ça peut être des espèces de personnages très différents les uns des autres, ont des pouvoirs magiques. Ça peut être des peuples anciens, comme dans les romans de Jean-Louis, les elfes, qui ont évidemment des pouvoirs différents des humains. Et ça peut être des sorciers, ça peut être des magiciens. Et à partir de là, on est dans un roman de fantasy. Voilà.
Ouais, pas forcément. Pas forcément, parce que il y a aussi j'ai le sentiment qu'il y a une approche qui se dessine en ce moment de la fantasy qui soit plus rationnelle que ça, quand même, en ce moment. Moi, j'essaye, en tout cas, dans mes romans, de n'utiliser jamais de magie, au moins possible. En tout cas, pas de la magie. Shazam, la chaise est transformée en dragon. Sûrement pas. D'ailleurs, il n'y a pas de dragon. Mais moi, j'ai fait des études d'histoire médiévale. J'ai une maîtrise d'histoire médiévale. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre, si on veut comprendre le Moyen-Âge, c'est que la magie fait partie de la vie des gens au Moyen-Âge, comme elle fait partie de la vie de tous les peuples primitifs encore aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a une connaissance du monde irrationnel, non scientifique, mais qui, pour autant, n'est pas fausse, n'est pas inexacte. C'est-à-dire que les gens, le français moyen du Moyen-Âge a une vision irrationnelle et magique du monde, mais pour autant, c'est une vision réelle, c'est sa vraie vie. C'est-à-dire quand vous avez une maladie très connue au Moyen-Âge, la mauvaise conservation des grains faisait qu'il y avait une substance dans le seigle, qui transformait le seigle en une sorte d'apparenté du LSD. Donc, les gens qui mangeaient du pain de seigle infecté avaient des visions hallucinogènes, comme avec le LSD, et en plus un sentiment de chaleur, de fourmillement, etc. On appelait ça le mal des ardents. Pour les gens qui assistaient à ce genre de choses, c'était la preuve d'une possession diabolique. Le type disait n'importe quoi, il se roulait par terre, l'impression de flamber, etc. Donc c'était, voilà, la preuve d'une possession du malin. Le type finissait en général brûlé ou un truc comme ça. Mais pour autant, le gars, il a fait quelque chose de bien réel. Quand vous avez des vies de saints, des vitas, en Bretagne, du haut Moyen-Âge, dans toutes les vies de saints, il y a un moment donné, le saint est ce qu'on appelle soroctone, c'est-à-dire tueur de dragons. Il tue un dragon. Et ça, c'est pas un saint une fois de temps en temps, que c'est pas juste Saint-Michel, ou Saint-Georges, pardon, c'est tous les saints du Moyen-Âge quasiment sont des tueurs de dragons. Dans la Bible, il y a des dragons. Dans le Coran, il y a des djinns. Il y a le fantastique, le merveilleux, dans toute la culture du Moyen-Âge, et bien au-delà de l'Antiquité du Moyen-Âge, c'est quelque chose de réel. Donc, je pense qu'il y a la place aussi pour une fantaisie qui s'installe dans cet univers-là, c'est-à-dire un univers où on considère que les choses sont réelles, elles ne sont pas inventées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de maîtriser la part du magique et du merveilleux pour essayer constamment de rester dans quelque chose de crédible. Alors, et c'est faisable. Moi, j'ai fait plusieurs cycles de fantasy entre ce qu'on peut appeler la high fantasy, c'est-à-dire des choses avec des elfes, etc., des nains et tout ça, des monstres, quelque chose de très, effectivement, tolkienien et traditionnel. Mais j'essaie, avec le pas de Merlin dont vous parlez, d'être entre histoire et fantasy. Et ça, c'est un exercice qui est plus délicat, mais on se rend compte que c'est tout à fait possible de s'inscrire dans un temps historique. Ce qu'a fait aussi Machin avec le roi d'août, comment il s'appelle,
Michel Pagel.
Pagel avec le roi d'août, s'inscrire dans un temps historique dans lequel on a des elfes, des créatures qui... Et au bout d'un moment, on se demande si ce sont des elfes ou si ce sont juste des êtres qui sont appelés elfes par les autres, des êtres différents. Imaginez pour un paysan français du Moyen-Âge, du Haut Moyen-Âge, voir un noir. Le gars, il ne peut pas croire que c'est un être humain possible. Il ne peut pas. De voir un lion, il ne peut pas croire que c'est une bête normale. De voir un éléphant, c'est forcément un dragon. C'est cette limite de connaissance, l'absence de connaissance, qui fait que les mecs voient du merveilleux là où il n'y en a pas forcément. Faut voir aussi que le Haut Moyen-Âge, l'Europe du Haut Moyen-Âge, c'est une forêt. C'est une forêt immense. Et l'histoire du Moyen-Âge, en tout cas du Haut Moyen-Âge, c'est la déforestation systématique, agencée par les moines, avec un système, parce que le Haut Moyen-Âge, c'est notre Far West, c'est-à-dire qu'une communauté religieuse s'installait au milieu de la forêt, défrichait 100 mètres carrés, construisait un monastère en bois, et les gens qui venaient défricher autour, la terre était à eux, gratis, donnée, en échange de défrichage. Et donc c'est le Far West, les mecs allaient au cœur de la forêt et défrichaient. Et en faisant comme ça, au bout d'un moment, on peut imaginer, c'est pas absurde d'imaginer, qu'ils soient tombés sur des communautés restées en dehors, ou oubliées après la conquête romaine ou après le retrait des Romains, et qu'il y ait eu, sur ce type de rencontres, des légendes. En plus, il faut bien voir que l'écrit arrive, l'écrit est oublié à cette époque-là, et reviendra beaucoup plus tard. Donc toutes les traditions sont orales, et tous les récits sont faits par des gens dont le métier est d'embellir. Donc forcément... Toute histoire devient du merveilleux. Mais imaginez une fantaisie sur cette base-là, c'est-à-dire une fantaisie à base réelle qui va devenir merveilleuse, c'est aussi un exercice, à mon avis, du moment.
C'est vrai, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, quand on voit la force du mythe de l'homme sauvage au Moyen-Âge, qu'on retrouve partout... on peut penser effectivement qu'il y avait peut-être des communautés ou des individus qui ont survécu pendant un certain temps. Mais pour en revenir, alors parce que je crois qu'effectivement là ce que vous avez soulevé c'est un problème tout à fait intéressant, c'est le problème des règles dans la fantasy. Il existe quand même un certain nombre d'univers de fantasy dans lequel il y a des règles où effectivement la magie suffit pas de claquer des doigts, de faire un geste. Où les règles ça ne fonctionne que si on respecte les règles. Je pense par exemple à l'univers de l'Antarctique, où là la magie a remplacé, la magie existe à la place de la science. Ça a bifurqué à un moment, mais ça ne peut fonctionner que selon certaines règles. Ou ce qui est peut-être plus même limite science-fiction, par exemple dans le cycle de The Dying Earth de Jack Vance, on est dans un monde où la science a tellement progressé que c'est devenu de la magie et que ça ne fonctionne que comme ça. Donc c'est là où on voit ces frontières assez floues. Tu pourrais peut-être élaborer là-dessus.
Oui, les frontières assez floues, mais en même temps, la magie peut être de nature très, très différente. Et en tout cas, dans toute la fantasy, le cœur de cible de la fantasy, c'est la fantasy qui dérive de Tolkien et qu'on appelle la fantasy épique. Dans cette fantasy épique, comme chez Tolkien, il y a une lutte systématique entre le bien et le mal, entre des magiciens qui sont des magiciens blancs et des magiciens qui sont des magiciens noirs. C'est la lutte entre Gandalf et Sauron, ou Saruman, dans Tolkien. Et donc, chez Tolkien, la magie est une magie très dialectique entre d'un côté les tenants d'une magie noire, de mauvais sort, et de l'autre des tenants d'une magie blanche qui est une magie bonne magie. Alors là-dessus, les auteurs se sont livrés à des tas de variations, parce que prenons un auteur comme Robin Hobb, qui est un de ceux qui, dans la fantasy épique, ont été parmi les auteurs les plus intéressants. Elle a imaginé dans ses romans deux types de magie. Une magie qui est celle d'une petite poignée de personnes qui sont capables de percevoir des choses lointaines, de recevoir des messages et de les projeter. Et puis une autre magie qui est une magie qui est de comprendre les animaux, d'avoir un lien très spécifique avec les animaux. Et cette magie, elle l'a stipendiée dans ses romans, enfin, la société qu'elle décrit, et une société dans laquelle cette magie avec les animaux est une magie qui est réprouvée et parfois même combattue par quelques fanatiques avec des moyens extrêmes. Donc il y a plusieurs types de magie possibles et dont toutes les possibilités existent. Il y a des auteurs, par exemple Ursula K. Le Guin, qui est un auteur de science-fiction, qui est une anthropologue de formation, qui a imaginé comment on devient magicien. Pour devenir magicien, on n'a pas le don comme ça, on a un petit don, mais il faut faire des études, il faut apprendre patiemment la magie, et puis dans la magie, il peut y avoir des chocs en retour. La magie, on jette un sort, ça peut coûter extrêmement cher en énergie, etc. Donc il y a plein de possibilités d'utilisation de la magie. Mais il y a également des romans dans lesquels il y a de fantaisie, enfin moi je les considère comme des romans de fantaisie, où il n'y a pas de magie du tout. C'est le cycle de cet auteur anglais qui est absolument capital, qui s'appelle Merwin Peake, qui décrit une citadelle, Gormenghast, avec une famille régnante, et le seul signe de magie, c'est la reine de ce domaine qui parle aux animaux. Tout le reste, c'est un univers extrêmement clos, qui visiblement n'est pas dans notre monde, encore qu'à un moment, Titus d'Enfer quitte Gormenghast et va voir, dans le troisième tome de la trilogie, va voir ce qui se passe apparemment dans notre monde, et à la fin, il a des chagrins d'amour, il a une initiation amoureuse, et découvre ce que c'est qu'une société contemporaine, il décide de retourner à Gormenghast. Il repart à Gormenghast, sa mère lui a dit de toute manière tous les chemins mènent à Gormenghast, on revient toujours. Il arrive devant Gormenghast, devant cette citadelle gigantesque, et puis il décide d'aller parcourir le monde. Malheureusement, on ne saura jamais ce qui se passe, puisque Merwin Peake, avant d'écrire ce quatrième volume, est tombé malade et il a jamais écrit. Et là, il n'y a aucune magie, mais on est très exactement dans un monde secondaire avec des règles qui ne sont pas celles de notre monde. Et la notion de monde secondaire, c'est une notion très importante dans la fantasy. Alors ce monde secondaire, il peut être ailleurs. On prend une porte et on se retrouve dans un archipel comme chez Ursula K. Le Guin, mais ça peut être aussi quelque chose sur notre terre, un endroit. Bon, c'est la forêt de Rye Hop chez Robert Holstock, où dans l'Angleterre, il reste un petit lambeau de forêt primitive. On pénètre dans cette forêt et on est dans une forêt labyrinthique où on va rencontrer des personnages qui sont des archétypes de légendes anciennes, les anciens personnages celtes, le dieu cornu. Et alors Holstock, grâce à Jean-Louis, on a pu lire en français son cycle suivant, où il a été plus loin. On sent dans la forêt des Mythagos, qui est son grand cycle, la tentation de mêler plusieurs mythologies. Et dans le cycle que tu as publié, Celtica, eh bien on a d'un côté la fantaisie arthurienne, pré-arthurienne, et de l'autre, Jason les Argonautes. Dans Jason les Argonautes, la légende grecque, Jason se marie avec Médée à un moment et elle tue ses enfants. Dans le roman d'Holstock, il a expliqué qu'elle n'a pas du tout tué ses enfants, elle a fait semblant, mais pour qu'ils échappent à Jason, elle les a planqués dans le temps, à l'époque arthurienne. Et à un moment du roman, on va ressusciter, c'est Merlin hein, qui va être en partie responsable de ça, on ressuscite le vaisseau Argos, Jason récupère ses argonautes et ils viennent dans l'Angleterre pré-arthurienne essayer de retrouver... Alors là, on a un mélange de mythologie qui est quasiment unique dans toute la fantasy, manipulé par un des très très grands auteurs du moment. Donc ça peut être des choses très, très variées. Et il y a des genres de fantasy très différentes, c'est rarement le cœur de cible. On a par exemple des romans de fantasy qui se situent dans notre monde, ce qu'on appelle la fantasy urbaine. Qu'est-ce qui se passe si dans une grande cité américaine aujourd'hui, il y a de la magie qui se manifeste? C'est Megan Linholm, hein, Robin Hood, le dernier magicien. La fantasy tolkienienne, c'est une fantasy médiévale. Mais si on décale, si on prend la Renaissance, si on prend des histoires de pirates, des swashbuckling, eh bien on a un autre type de fantasy. Il y a une fantasy extrême-orientale avec les mythologies chinoises. C'est un territoire très vaste et qui est depuis 10 ans effectivement complètement en mouvement. Alors que pendant très longtemps, les auteurs se sont contentés de faire du Tolkien bis. Les auteurs qui ont bien marché, c'est souvent des copieurs de Tolkien à un point indécent, peut-être, parfois.
Alors, il y a une dimension supplémentaire à la fantasy qui explique aussi peut-être son essor par rapport à la science-fiction. C'est, tu l'as évoqué très largement, c'est la dimension religieuse de la fantasy. D'abord parce que ça emprunte souvent mythologie, massivement la mythologie celtique ou mythologie nordique, mais également toutes les autres mythologies. Et au-delà d'emprunter des figures de dieux, de héros, de demi-dieux, etc., il y a quand même dans la fantasy, contrairement à la science-fiction, une volonté de proposer un monde alternatif. Et je crois que l'essor de la fantasy correspond aussi à l'essor du New Age en général, de la magie naturelle, du zen, etc. Tous les gens qui finalement se détournent du matérialisme, qui peut être d'une certaine façon symbolisé par la science-fiction, pour rêver à une sorte de monde alternatif, de monde tel qu'il aurait pu être s'il ne s'était pas engagé sur la voie d'un progrès matérialiste et scientifique. C'est ça qu'incarnent les elfes, qui sont aujourd'hui sans doute les figures de proue de la fantasy. C'est les personnages les plus célèbres, les plus emblématiques de ce que peut être la fantasy aujourd'hui. Alors les elfes, leur représentation varie d'un auteur à l'autre, évidemment, mais en général, ce sont quand même des êtres humains, d'apparence, plus beaux que l'humain de base, donc sorte de surhomme qui pourrait même être suspect, si on va vers le côté surhomme germanique, etc. Sauf qu'ils portent en eux une sorte de fardeau qu'on retrouve aussi dans le personnage de Merlin. Ils portent en eux le déclin, la chute de leur peuple. Et donc c'est une sorte de symbole d'une humanité qui disparaît, qui serait une humanité fraternelle, une humanité en communion avec la nature, au profit d'une autre humanité qui est la nôtre, qui, elle, s'engage dans une voie matérielle, dans une voie scientifique, dans une voie, oui, tout à fait matérielle. Donc il y a cette dimension-là. Et du coup, les elfes ne sont plus un peuple, ils deviennent une incarnation d'un élément de l'âme humaine. Ça, je trouve que c'est une dimension quasiment systématique dans la fantasy, en tout cas dans la bonne fantasy, c'est cette dimension spirituelle, on va pas dire religieuse, mais on va dire spirituelle, et cette vocation à proposer un monde qui, en général, effectivement, à 99%, est un monde passé, un monde médiéval, parce que ça permet Le Moyen-Âge, vous savez, c'est une période extrêmement floue, en réalité. Quand vous demandez aux gens, votre idée du Moyen-Âge, ça peut être un truc qui a duré 200-300 ans. Le Moyen-Âge, ça a duré 1000 ans. C'est-à-dire le double de la période qui nous sépare nous-mêmes du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'entre un mec du haut Moyen-Âge, vers l'an 500, et de la fin du Moyen-Âge, vers l'an 1500, il y a le double du temps qu'on a vécu, nous. Et donc c'est une période extrêmement longue. Si vous situez le Moyen-Âge comme un chevalier en armure dans un château, ça c'est une vision du Moyen-Âge de 1300-1400. Le Moyen-Âge de l'an 500, c'est complètement autre chose, ce qu'on appelle les âges sombres. Et c'est dans ce moment flou que se situe la plupart des œuvres de fantasy, parce qu'en réalité, c'est le moment où l'Europe, historiquement, hein, où l'Europe devient quelque chose de concret, de matériel, où les royaumes se créent, où les terres se défrichent, où les choses, la religion s'installe. Mais ça prend 200 ou 300 ans, et avant ça, on est dans le Far West, encore une fois. Et donc, il n'est pas complètement absurde d'imaginer que une part de cette aspiration au merveilleux qui existe dans la fantasy est un peu des assises historiques bien réelles. Parce que également, les religions de l'époque, la religion romaine, la religion gauloise, sont des religions extrêmement magiques, où la magie est omniprésente. Vous savez que le mot « fée », c'est un mot d'origine romaine, ça vient de « fata ». Donc tout ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas des inventions littéraires. Tout ça, c'est quand même, à un moment donné, des choses auxquelles les gens ont cru, tout simplement. Les dolmens, tout ça, sont des choses auxquelles les gens ont cru à un moment donné. Donc, je pense que c'est une dimension fondamentale, il ne faut pas oublier, c'est cette dimension spirituelle de la fantaisie. Voilà.
Tout à fait. Et pour aller aussi dans ce sens-là, parce que pour expliquer les attraits de la fantaisie et cet essor que connaît la fantaisie depuis quelques années, bon, il y a d'une part cette dimension spirituelle à laquelle vous avez fait allusion et qui, effectivement, vient en réaction dans un monde qui est de plus en plus matérialiste. Est-ce que vous ne pensez pas aussi, là, ma question s'adresse à tous les deux, qu'un des autres attraits très forts de la fantasy, c'est qu'en général, les héros, au début, sont des gens, c'est monsieur tout le monde. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe comment, de se retrouver soudainement celui qui est choisi, celui qui est retrouvé. Ça peut être un peu n'importe qui. Et donc, il y a une plus grande facilité d'identification par rapport, et de rêve, par rapport, par exemple, au fait que si on lit de la science-fiction, on sait qu'on ne sera jamais cosmonaute pour 99,99% d'entre nous.
Oui, à moins d'être millionnaire et d'avoir pris des places sur les navettes. Oui, ça, c'est l'héritage tolkienien, encore une fois. C'est-à-dire que Le personnage de Frodon ou Frodo dans Le Seigneur des Anneaux est un petit hobbit que rien ne prépare à la grande aventure qu'il va vivre, de même que dans Bilbo le Hobbit, Bilbo était un hobbit qui ne rêvait que de rester au calme dans sa petite cahute et qui est obligé par Gandalf de partir avec une bande de nains reconquérir un trésor. Donc c'est pas des héros pur jus, mais comme le genre de la fantasy est un genre très vaste, il y a aussi des personnages héroïques, et bon, on retrouve dans la fantasy tolkienienne quand même des choses qui sont la fantaisie épique, puisque tolkienienne, des choses qui sont un peu plus dérangeantes. C'est-à-dire qu'en utilisant une société médiévale, on décrit un système de caste sociale qui est rarement mis en cause dans la fantaisie. Je ne connais pas de roman de fantaisie dans lequel on assiste à des jacqueries triomphantes. Donc c'est quand même un genre qui pose un certain nombre de problèmes. Puis il y a toute une partie de la fantaisie dont tu parlais tout à l'heure, qui est l'heroic fantasy, les personnages d'Howard, où ce sont des héros quasiment invincibles. D'ailleurs, joués par des acteurs qui sont bodybuildés. Donc, c'est très variable. Mais effectivement, moi, Je me suis posé, quand j'ai écrit deux livres sur la fantasy, j'ai assisté comme critique, j'ai travaillé 20 ans au monde des livres, j'ai assisté pendant 20 ans à un déplacement très net. On avait, quand j'ai commencé en 89, on avait à critiquer quasiment que des romans de science-fiction, et puis petit à petit, on a vu cette part grignotée par des romans de fantasy. Et je me suis demandé pourquoi, dans l'imaginaire du public de notre 21e siècle et de la fin du 20e, d'un seul coup, une littérature qui était une littérature entre guillemets progressiste, c'est-à-dire qui croyait, c'est plus compliqué que ça dans les faits, mais disons qui se développe à partir d'idées qu'il y a un progrès technologique très important qui permet à l'homme d'explorer la galaxie. C'est quand même une espèce d'utopie assez extraordinaire, une utopie de l'espèce, parce que si on continue à rester sur notre planète, avec le nombre de naissances qu'il y a, on va forcément au-devant de graves ennuis. Pourquoi ce genre-là disparaissait au profit d'un genre qui est un genre un peu régressif? Et il y a plusieurs réponses, celles que donne Jean-Louis, qui ne sont pas forcément celles que j'avancerai. Moi, ce qui me frappe plutôt, je ne suis pas très sensible aux dimensions spirituelles ou religieuses, étant un agnostique, grâce à Dieu, comme disait Buñuel. Ce qui me frappe, c'est le fait que cette littérature est une littérature de réenchantement. C'est-à-dire que on retrouve des types de personnages, les fées, les elfes, les nains, auxquels nos ancêtres ont cru à un moment, et qu'on voit réapparaître dans notre civilisation, peut-être parce qu'ils, je le pense sincèrement, parce qu'ils nous manquent. Parce que quelque chose dans notre imaginaire est un imaginaire détraqué, que la science-fiction ne suffit plus à remplir. Et le fait, par exemple, que Obama vienne de supprimer le programme lunaire vient encore de porter un coup à l'idée qu'on puisse un jour conquérir les étoiles.
Oui, puis là, ça correspond aussi à une période de faillite des idéologies. Tu disais 89. La chute du mur de Berlin, c'est 91, un truc comme ça. C'est aussi donc ça s'inscrit dans un contexte historique qu'on a vécu tous, qui est celui de la faillite des idéologies. Il y a une époque, il y a des générations qui ont cru au lendemain qui chante, qui ont cru que en votant à droite, à gauche, au milieu, le monde allait changer, le monde allait être meilleur. Et on est maintenant dans un système global où quand même la foi en la politique, on va dire, de même que la foi en leur religion, a fortement baissé. En tout cas, la foi en leur religion en Europe, c'est pas forcément le cas partout. Mais en tout cas, cet espoir qu'un monde meilleur va venir en votant ceci ou en communiant cela, a quand même tendance à régresser. Et donc, il y a une recherche d'alternatives. Je pense que c'est exactement ça, la volonté de retrouver une sorte de candeur qui est en même temps celle de l'enfance de l'homme et en même temps de l'enfance de l'humanité, finalement. C'est-à-dire que quand l'humanité était jeune, quand l'humanité était un petit enfant, bah, c'était le Moyen-Âge. Les gens croyaient à des choses infantiles. Mais il y avait une candeur à croire aux fées, une candeur à croire aux nains, aux trésors, au monde merveilleux, etc. Et aujourd'hui qu'on est dans l'âge adulte de l'humanité et dans un monde désenchanté, justement, le mot est tout à fait exact. Il y a une recherche qui n'est pas absurde à le réenchanter, finalement. Et donc, à aller rechercher un peu de tout ce qu'on a méprisé. L'homme moderne du XXe siècle a tendance à être excessivement arrogant par rapport aux cultures qu'il précède, ou aux cultures qui ne sont pas les cultures européennes. C'est-à-dire, on considère que... On a considéré, et je trouve qu'on est en train de revenir, mais on a considéré longtemps que la science était la réponse absolue à tout, et que la science pouvait absolument tout expliquer. c'est pas forcément vrai. Et à un moment donné, on voit les limites de la science qui ne peut pas expliquer certaines choses, à commencer par l'apparition de la vie, qui en a déjà eu d'une. Et donc, partant de là, arrivant aux limites de la science et arrivant aux limites de l'espace, on se dit à un moment donné, ben, on ne pourra pas aller plus loin. Effectivement, on ne pourra pas aller explorer d'autres systèmes parce que ce n'est pas possible. On arrive à un moment où si on veut s'inscrire dans le monde, eh ben, on peut revenir en arrière sur une vision plus magique. D'une certaine façon, pas totalement irrationnelle, puisque la science n'arrive pas à expliquer certaines choses, donc c'est pas irrationnel d'y croire, et réenchanter ce monde en retrouvant ce qui faisait la fraîcheur de nos ancêtres, du Moyen-Âge, de notre enfance, etc. Ça, je trouve que cette dimension-là, elle correspond aussi à une population. Les lecteurs de fantasy sont massivement, là je me trompe peut-être, mais sont, il me semble, massivement des adolescents et des jeunes adultes. C'est-à-dire des gens qui sont nettement au sortir de l'enfance. Ce n'est pas les enfants qui lisent de la fantasy. Ils vont plutôt lire du fantastique, comme Harry Potter, ou comme Tara Duncan, ce genre de choses sont plutôt dans le fantastique. Mais à l'entrée dans l'adolescence, et jusqu'à un âge adulte relativement avancé, justement, il y a cette quête que je qualifiais tout à l'heure de spirituelle, parce qu'à mon avis, spirituelle, pas forcément religieuse, mais spirituelle, d'essayer de trouver une organisation du monde, sortir de notre organisation du monde, retrouver quelque chose. Et je disais, ça correspond vraiment à une philosophie qui vient bien au-delà du livre, qui est la philosophie New Age, qui est aussi les gens qui mangent bio, les gens qui sont attentifs à l'environnement, qui essayent de trouver une vérité dans la nature, etc. Tout ça est une... Alors, je ne dis pas que le lecteur de fantasy est forcément un type qui croit aux elfes, mais disons que c'est un imaginaire qui correspond à quelque chose, et peut-être à quelque chose de plus vaste, et que le succès de la fantasy par rapport à ce que la science-fiction, et par rapport à ce que la science-fiction pouvait véhiculer de croyances en un avenir moderne et technique, bah, c'est un peu l'air du temps, c'est un peu normal. Tu vois, c'est vrai que considérer aujourd'hui qu'on ira dans l'espace et que ce sera formidable, c'est pas l'idée commune, quoi.
Oui, mais en même temps, quand on a lancé les premiers Sputniks, on était assez bluffés. Et quand on a vu le premier homme sur la Lune, on s'est dit, là, il est en train de se passer quelque chose. Mais bon, il ne s'est pas passé grand-chose derrière. Il y a une citation d'un auteur anglais de la fin du 19e et du début du 20e que j'aime beaucoup parce qu'on peut... On peut trouver la clé de la fantaisie là-dedans. C'est un auteur exceptionnel qui s'appelle J.K. Chesterton, qui a écrit des romans policiers, qui a écrit un roman tout à fait étonnant qui s'appelle Un nommé jeudi, dans lequel Dieu est un personnage qui manipule les anarchistes. Et quand on arrive au dimanche, la personne qui est là, c'est Dieu. C'est un roman très, très étonnant. Et Chesterton a écrit un jour... Les contes de fées ne nous disent pas que les dragons existent. Ils nous expliquent qu'on peut vaincre les dragons.
C'est bien. Le mot de la fin. Quasiment. Ça, c'est très beau. Mais alors, parce que je crois que l'heure tourne un petit peu, moi, j'aurais quand même une dernière question, parce que justement, pour rebondir un petit peu... Est-ce que vous pensez tous les deux que ce courant de la fantaisie qu'on voit apparaître depuis quelques années, qui est un courant de, en quelque sorte, d'autodérision, de détournement des codes, je pense, bon, bien sûr, à John Lang avec le donjon de Nahelberg, mais aussi à des auteurs anglo-saxons comme Stan Nichols, dont les héros sont des orques complètement loufoques. Est-ce que vous pensez que ça, c'est le signe que maintenant la fantaisie est vraiment rentrée dans les mœurs, puisqu'on est capable de s'en moquer ?
Moi, oui, moi, je pense tout à fait. C'est absolument. On ne peut pas faire de la dérision sur un truc qui est inconnu. Il y a aussi toutes les BD qui marchent formidablement en France, Landfeust, Troll de Troyes, etc. Enfin, il y en a plein et qui sont d'excellente qualité. Il y a aussi Camelot de Alexandre Astier, la façon dont il a détourné le mythe arthurien tout en étant assez fidèle. Oui, oui, ça montre que vraiment, c'est devenu une culture, pas dominante, mais bien installée, qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans, vous dites elf ou orc à des gens, ils en ont une représentation relativement cohérente. Tout le monde voit à peu près les morts. Bien sûr, grâce au cinéma, mais au-delà, il y a une représentation relativement cohérente d'un imaginaire qui, d'ailleurs, et c'est intéressant, se façonne de façon collective. Il y a des tas de codes. Notre ami Beauverger, qui était là, a fait une notice là-dedans sur les jeux. Et c'est rigolo, par exemple, il y a un code qui a été installé par le jeu Donjons et Dragons, qui est que quand vous formez une bande d'aventuriers et que vous avez un moine, le moine n'a pas droit aux armes tranchantes. C'est un code hyper installé dans le monde des jeux et de la fantasy en général. Le moine, il a une massue. Bon, c'est un truc complètement absurde, ça repose absolument sur rien, mais c'est toujours comme ça. Et c'est devenu un truc, voilà, c'est installé. Le moine, il a une massue. Et j'aime bien ce genre de choses.
C'est frère Tuck, Robin des Bois.
Oui, voilà, mais dans le monde, dans l'univers arthurien, c'est pareil. L'univers arthurien tel qu'on connaît aujourd'hui, il est façonné non pas par Geoffrey de Monmouth et des gens comme ça qui ont écrit au tout début, il est façonné par des suites d'auteurs quasiment ininterrompues. Et il y a des choses qui rentrent dans notre imaginaire arthurien aujourd'hui, qui sont dues à Walt Disney, qui sont dues au Excalibur de John Borman, qui sont dues aux Dames du Lac. Des personnages fondamentaux comme Viviane, par exemple, c'est une invention très tardive. Viviane, très très tardive. Viviane n'existe absolument pas dans les romans arthuriens du haut Moyen-Âge, du tout. Et voilà. Et ça, c'est aussi le propre de la fantasy. Même s'il y a énormément d'auteurs, énormément de gens différents, il y a une espèce de sentiment collectif. C'est-à-dire, même ceux qui font de la dérision ne vont pas casser le moule, ils ne vont pas casser l'objet, ils construisent ensemble une sorte de pyramide, une sorte de montagne, pour aller vers quelque chose de cohérent. Ça, c'est pas mal. Et c'est rare que les gens transgressent complètement le genre. Ils essaient plutôt de l'accroître, d'aller gagner des domaines supplémentaires, tout en restant dans une cohérence. Les gens ne vont pas faire des elfes subitement... complètement différent de tout. Un type qui dirait les elfes, ils ont des ailes dans le dos, ils sont rouges, ils ont la peau écailleuse et ils mesurent 28 cm, ça ne marcherait pas. Parce que ce n'est pas l'imaginaire actuel. Ça ne marcherait pas. Ça, c'est marrant. Ça, je trouve ça bien.
La dérision, elle remonte assez longtemps. Pas réellement sur la fantaisie, mais sur son ancêtre, le conte de fées. Et il y a 25 ans ou 30 ans, dans Mad, il y avait un cartooniste de génie qui s'appelait Don Martin. Et il y a un dessin de lui extraordinaire. On voit un crapaud au bord d'une mare sur la première image. La deuxième image, arrive une princesse. Elle voit le crapaud. Et alors, on voit un petit signe, hein, une petite bulle. Elle pense à quelque chose. Elle se penche. Elle embrasse le crapaud. Et elle se transforme en crapaud.
Très bien. Ben, je crois que ce sera le mot de la fin. À moins qu'il y ait des questions. Oui, puis je crois qu'il va falloir céder la place. Donc, au lieu de nous transformer en crapaud, je vous invite tous à vous transformer en lecteur de fantasy, en découvrant donc le domaine avec l'excellente encyclopédie de la fantasy de Jacques Baudou et avec les romans chez Jean-Louis Fedjen, dont je vous invite aussi à lire les romans.
Alors,
merci à tous.
Peut-être un dernier mot, je veux dire que j'ai eu une chance absolument extraordinaire, donc je veux le dire, c'est de travailler avec un éditeur qui est un auteur de fantasy, donc il connaît le domaine, et ça a été une vraie partie de... C'est-à-dire, j'ai pas écrit un bouquin seul dans mon coin, il y a eu un vrai partenariat, et c'est pas si fréquent que ça.
Merci à tous les deux.